de santé 88.4.
Salut à tous et bienvenue dans la première de la saison d'Enjeux de santé, l'émission santé et bien-être de Radio Campus Rennes. Aujourd'hui, je me suis rendu au planning familial de Rennes. J'y ai rencontré la directrice, Brigitte Rocher, pour une présentation de l'association et de ses activités. Nous ferons également un point sur les moyens de contraception disponibles au planning familial.
Alors bonjour, Brigitte Rocher, je suis directrice du planning familial sur le département d'Ille-et-Vilaine. Le planning familial est implanté depuis fort longtemps ici sur Rennes, mais aussi sur Saint-Malo. Et donc, on va vous donner un petit peu plus de détails sur ce qu'on peut trouver au planning familial, où on est situé et les différents services que nous proposons chaque jour.
Alors, quelles sont vos actions et quels sont vos objectifs ?
Alors déjà, c'est une association féministe. Hein, donc en fait, ici, nos objectifs, c'est de lutter déjà contre toute forme de discrimination, de faire en sorte qu'on puisse trouver ici un accès facile à l'information et à la prévention sur tout ce qui concerne la contraception, mais aussi l'ensemble des infections sexuellement transmissibles. C'est aussi un lieu où on peut avoir une prise en charge sur les problématiques de violence, puisque le planning familial travaille en réseau et notamment est aussi un centre de prise en charge des violences faites aux femmes. Donc le planning familial, de par son histoire, hein, c'est quand même une histoire de lutte. Le planning familial a été connu notamment pour les luttes pour l'accès à la contraception en France et ensuite par rapport à l'accès à l'IVG. Et donc suite à ces lois-là, en fait, les centres de planification qui sont ouverts sont soit privés, soit sont publics. Alors le planning familial, c'est une association du coup privée qui reste autonome avec forcément des fonds publics. Et qu'est-ce qu'on y trouve en fait tous les jours? On y trouve des services dans le cadre des lois. Alors en particulier, les personnes mineures peuvent avoir accès ici au planning familial à la contraception gratuitement, c'est-à-dire que tous les jours ici au planning il y a des consultations médicales. Ces consultations médicales, elles sont gratuites pour les mineurs, mais bien entendu lorsqu'on est étudiant et qu'on écoute Radio Campus, on est sans doute plus mineur, sauf si on a beaucoup d'avance dans ses études. Alors, on s'adresse bien entendu aux jeunes, à tous les jeunes, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'une consultation médicale au planning, ça coûte 6,90 €. Et en fait, on est spécialisé dans tout ce qui concerne la vie affective et sexuelle, dans la sexualité d'une façon globale, et donc, on peut répondre à toute demande concernant la contraception, c'est-à-dire qu'on peut venir pour une consultation, rencontrer des gynécos, nos médecins sont essentiellement des femmes, on a quand même deux hommes, mais tous les jours, il y a des consultations médicales spécialisée en gynécologie, et sauf le jeudi, hein, c'est du lundi au vendredi, mais le jeudi c'est plutôt accessible pour les animations que nous faisons à l'extérieur, etc., même si le planning est bien entendu ouvert tous les jours. Alors voilà, on peut répondre à la demande de toutes les contraceptions, c'est-à-dire une jeune fille qui souhaite se faire poser un stérilet, même si elle n'a jamais eu d'enfant, c'est possible. Si on veut la pilule, c'est possible. Si on veut un implant, c'est possible. Si on veut autre chose, c'est possible. Il faut savoir que c'est aussi un centre de dépistage, et ça, on l'oublie souvent. Le planning familial est un centre de dépistage contre toutes les infections sexuellement transmissibles. Donc, on peut venir pour une demande pour un dépistage de VIH, comme pour les autres infections qui sont beaucoup plus importantes. Hein. Et on est aussi un centre de vaccination. Donc voilà, on a quand même tout un pôle santé qui est très, très important. Mais ce n'est pas suffisant. On fait aussi autre chose.
Donc, vous êtes constitué d'une équipe de professionnels. Donc, combien de médecins et autres professionnels de la santé sont présents au sein de l'association ?
Alors, en fait, on a des médecins spécialisés en gynécologie, donc tous les jours et voire deux fois par jour. Donc, nous en avons 9 ici au planning de Rennes. Nous avons 2 psychologues, donc un psychologue clinicien, un homme, et on a une psychologue criminologue, donc qui est là essentiellement pour répondre à toutes les questions qui tourne autour des problématiques de violence. En particulier, ça c'est très très important de le savoir, il y a une permanence d'accueil tous les mercredis après-midi pour les jeunes victimes de violence dans leur relation amoureuse ou victimes de violence dans une relation sexuelle, donc c'est-à-dire agression sexuelle, viol. Donc ça c'est aussi très important parce que bien évidemment quand je dis c'est une prise en charge, c'est une permanence gratuite et donc ouvert à tous, hein, que ce soit aux garçons ou aux filles. Et par ailleurs, nous avons des conseillères conjugales et animatrices de prévention. Donc ce sont les métiers qui sont exercés ici au planning, en sachant qu'on travaille aussi tous les jours à l'hôpital Sun et en particulier au centre d'orthogénie, là où on pratique les IVG. On pratique aussi les IVG médicamenteuses ici au planning familial, il faut le savoir. C'est-à-dire qu'une personne qui souhaite une IVG qui est dans le cadre de la loi, c'est-à-dire pas plus de 5 semaines de grossesse pour les IVG médicamenteuses, c'est possible ici dans notre centre.
Donc, où se situe le planning familial sur Rennes ?
Alors, le planning familial, c'est facile. En fait, on est situé au centre-ville et on peut venir lorsqu'on est étudiant, que ce soit si on est à Vigan ou à Beaulieu, on peut venir en métro. Et en fait, si on prend le métro Sainte-Anne ou le métro Anatole France, on peut trouver facilement le planning. Si on est au métro Sainte-Anne, il suffit de descendre la place des Lys. Alors ça, c'est bien connu des étudiants. Ensuite, on traverse le pont et on est sur la dalle commerciale de Bourg-l'Évêque. L'adresse exacte, c'est 11 boulevard Maréchal Delattre de Tassigny. Mais on peut aussi nous joindre au téléphone. Alors, on peut venir au planning tous les jours comme ça, sans rendez-vous. Mais si on veut une consultation médicale, il faut prendre un rendez-vous par téléphone, par exemple. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 02 99 31 54 22. Mais on a aussi un numéro vert qui a une ligne régionale gratuite d'un poste fixe et c'est le 0800 800 648. On peut correspondre aussi autrement au planning, notamment on répond à toutes les questions du web national, donc on a un site national et on a un site Facebook aussi.
Je voulais savoir, existe-t-il une action régionale du planning familial ?
Alors, juste pour vous planter le décor, au niveau du planning familial, il y a une confédération nationale donc, qui est à Paris. Ensuite, il y a des fédérations régionales et des associations départementales. Donc nous, on est une association départementale, on dépend d'une fédération régionale. Donc sur la région, on a un planning à Brest, mais qui est un centre d'information qui n'est pas ouvert tous les jours et qui n'a pas de centre de planification, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de consultation médicale, par exemple. Il y a un centre à Saint-Brieuc, mais qui est ouvert juste le vendredi soir. C'est pareil, c'est un centre d'information, rien à voir avec nous. Ce sont sur Brest et Saint-Brieuc, ce sont essentiellement des personnes bénévoles, militantes, qui défendent les valeurs du planning. Mais si on veut une consultation médicale là-bas, on ne pourra pas répondre à cela. Alors, quand vous parlez de lien avec la région, eh bien, on a par exemple, nous, une ligne régionale. La ligne régionale, elle est chez nous, parce qu'on est un gros centre, quoi, si vous voulez. On a aussi des projets régionaux. Parfois, par exemple, il y a quelques années, on a fait un colloque régional. Et ce colloque régional, on l'a fait à Vannes, par exemple. Et donc, ça réunissait, tout le monde était invité, mais c'était une initiative régionale. Et on dépose des projets régionaux aussi, parce qu'on peut avoir une patientèle régionale.
Faites-vous d'autres interventions en dehors du planning familial, c'est-à-dire à l'extérieur, par exemple sur les universités ou dans d'autres lieux ?
Alors, on intervient beaucoup, que ce soit dans les établissements scolaires, partout où nous sollicite. On travaille aussi sur projet, mais je trouve qu'on n'intervient pas suffisamment à l'université. L'université nous sollicite peu. Alors, il faut savoir que quand on nous sollicite, soit on travaille sur projet, et là, on a un projet qui a été travaillé avec que ce soit des enseignants ou des structures. Et donc, ça, on fait des demandes dans le cadre des projets ou régionaux ou avec l'État, bref. Mais sinon, quand on intervient à la demande d'une structure, on se fait payer puisqu'on est une association et on n'est pas riche. Donc, on est obligé de se faire payer. Donc, il faut quand même le savoir. Mais aussi, on est militant. Donc, c'est vrai qu'on peut aussi intervenir par militantisme auprès éventuellement d'une structure qui pourrait nous solliciter. Voilà. Donc, ça, c'est à voir. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a un travail important à mener auprès des universités. Et voilà, la porte est ouverte.
Une toute autre question. Si une personne veut choisir un moyen de contraception, tout le monde n'est pas forcément au courant de tous les moyens de contraception qui existent. Pouvez-vous nous en faire une liste plus ou moins exhaustive ou en tout cas les plus efficaces ou les plus répandues ?
Bon, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un choix contraceptif beaucoup plus important qu'autrefois. Après, ce qui est important aussi, c'est de choisir sa contraception. Alors, c'est vrai qu'on est toujours dans les œstroprogestatifs, c'est-à-dire tout ce qui est pilule. Aujourd'hui, on a effectivement un panel, on va dire, de pilules, et c'est ce qu'on appelle les œstroprogestatifs, c'est-à-dire à base d'œstrogène et de progestérone. Et toujours dans les aspects d'œstrogène et progestérone, on a maintenant le patch et l'anneau vaginal. Donc ça, c'est le même fonctionnement, si vous voulez, à part la prise de ces contraceptifs ne se fait pas de la même façon. On va dire l'aspect n'est pas le même, mais sinon les dosages peuvent être similaires, par exemple à une pilule œstroprogestative. Après, qu'est-ce qui va changer ? C'est remboursement, non-remboursement, etc. Bon. Après, on a aujourd'hui l'implant. Hein, l'implant qui est une méthode de contraception à base de progestérone qui est mise en place pour 3 ans. Donc, c'est une contraception qui est remboursée. Et ensuite, on a le stérilet. Donc, alors, dans les méthodes efficaces, on va dire qu'en premier, c'est l'implant qui va arriver en premier. Et vient ensuite... les œstroprogestatifs, c'est-à-dire pilules en l'occurrence avec l'anneau vaginal, etc. Et ensuite on a le stérilet. Le stérilet qu'on peut poser, il faut savoir, aux personnes qui n'ont jamais eu d'enfants. On pose de plus en plus de stérilets aujourd'hui. Donc le stérilet en plus, il est posé pour 5 ans. Donc c'est une très très bonne méthode de contraception quand on a fait ce choix-là, par exemple. Après, il y a des méthodes locales donc qui sont vraiment moins efficaces. Donc après, il y a le préservatif, mais qui est plutôt là pour lutter contre les infections sexuellement transmissibles, donc féminin, masculin. Et ensuite, on a des méthodes locales comme le diaphragme, les caps cervicales, les méthodes anciennes naturelles, mais qui ne sont pas efficaces.
D'ailleurs, en parlant de préservatifs, vous en distribuez gratuitement sur place, c'est ça ?
Oui, on a toujours une mise à disposition de préservatifs sur place, c'est gratuit, au planning familial.
Et maintenant, une petite pause musicale avec Luis Francisco Arena et le titre Gold. Nous sommes de retour avec Brigitte Rocher, qui nous parle des causes défendues par le planning familial.
Alors, c'est une association militante féministe, hein, donc ça veut dire qu'on travaille sur tout ce qui concerne les rapports égalitaires entre les filles et les garçons. Donc, on fait beaucoup d'actions là-dessus, c'est-à-dire faire en sorte que, justement, à partir du moment où on aura beaucoup travaillé sur cette question d'égalité, on aura sans doute moins de problèmes. On travaille sur des notions de genre aussi, c'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment des questions qui sont très essentielles pour, justement, qu'il puisse y avoir aussi moins de problématiques de violence dans la vie. Donc, qu'est-ce qu'on lutte ? On lutte contre toutes les violences, en particulier les violences faites aux femmes, parce qu'elles sont nombreuses et on se rend compte, nous, dans notre quotidien, dans nos activités, que ce soit à l'hôpital ou dans nos activités à l'extérieur ou ici. Donc, ça fait partie des luttes que nous menons. Et on travaille, quand on parle qu'on lutte contre toute forme de discrimination, on a mené sur 2013 pas mal de réunions en lien avec les groupes LGBT, justement pour lutter contre les discriminations homophobes, etc. Donc, lutte contre l'homophobie, ça fait aussi partie de nos activités, de nos réflexions, de notre militantisme. Et c'est vrai que là, je pense qu'on a un travail important à mener parce qu'on nous a dit, en tout cas, que les personnes gays, lesbiennes, bi ou trans avaient une très très mauvaise prise en charge de leur santé. Et donc nous, ce qu'on souhaite en tout cas, c'est que ces personnes-là puissent venir au planning et qu'on puisse les accueillir comme on le fait avec toute personne, hein, et qu'elles puissent trouver justement une écoute attentive et accueillante et une prise en charge de leur santé efficiente. Donc je crois que, voilà, entre autres, ce qu'on fait, c'est déjà tout ça, quoi.
Est-ce qu'il y a eu une évolution sur les violences, par exemple, faites aux femmes ou différents types de discrimination? Est-ce qu'il y a eu une évolution au cours de temps? Est-ce que ça s'est amélioré? Ou est-ce que ça a empiré? Ou est-ce que ça a stagné?
Déjà, les chiffres, hein, on les a depuis peu, donc on ne peut pas tellement dire que ça a évolué. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on communique sans doute un petit peu plus là-dessus. Donc, les violences, elles n'ont pas diminué. Elles sont présentes, elles sont très présentes. Après, il y a plus de prise en charge, certainement. Il y a beaucoup d'efforts encore à faire là-dessus. Et surtout, ce qui est important, c'est que les structures, justement, qui prennent en charge les personnes victimes puissent être aidées. Donc, il y a ça. Il y a aussi faire en sorte, justement, qu'il y ait moins de violence. Mais ça, c'est pas gagner. Donc ça veut dire, c'est pour ça qu'il faut travailler à la base et en particulier avec les très jeunes et depuis l'école primaire. Je pense que c'est important qu'on puisse aborder ces questions d'égalité, et sinon la violence elle sera toujours là, quoi. Donc non, les violences faites aux femmes, malheureusement, on voit, il suffit de regarder les journaux, hein. Ce n'est pas normal qu'il y ait une telle mortalité encore aujourd'hui et qu'il y ait autant de personnes qui se retrouvent encore chez elles, séquestrées ou envoyées dans un pays à l'étranger pour se faire marier. Les mariages forcés, ils existent aujourd'hui, ils existent chez nous. On le voit ici. Il y a toujours aussi des problèmes d'hébergement pour les femmes victimes. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc rien n'est gagné. Par contre, je pense qu'il faut beaucoup communiquer, et c'est pour ça que j'en parle aussi à Radio Campus, parce que c'est vrai que la permanence d'accueil pour les jeunes aussi victimes, c'est dans tous les milieux, hein. Et donc être agressé, il faut pouvoir en parler, il faut pouvoir sortir de cet isolement là et il faut pouvoir porter plainte aussi. Donc ça demande un cheminement, ça demande un accompagnement et une prise en charge médicale aussi parfois.
En parlant de communication, pensez-vous que la vôtre est efficace? Pensez-vous être assez visible, on va dire, dans le paysage au niveau des jeunes ou des étudiants?
Non, moi je crois pas. Je crois que justement il faut qu'on communique davantage. Tout ça prend du temps, mais je suis sûre qu'on communique certainement pas assez, et je pense qu'on devrait être beaucoup plus présent effectivement dans les journaux, à la télé, à la radio. Ça demande de l'énergie, ça demande là aussi une écoute attentive, mais non, on n'est certainement pas suffisamment. La preuve, c'est que encore on voit des jeunes qui savent pas où aller pour une consultation médicale, qui savent pas qu'on peut se faire poser un stérilet chez nous, qui savent pas qu'on a des consultations tous les jours. Donc ça veut dire qu'on communique mal.
Moi, la dernière fois que j'ai entendu parler des plannings familiaux, c'est dû au problème de finances qu'ont eu certains plannings familiaux. Est-ce que vous pouvez un peu nous en parler ?
Alors, ben voilà, j'en parlais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, nos associations, elles sont pas vraiment autonomes. C'est-à-dire qu'en fait, dans le cadre d'une loi, hein, lorsqu'il y a des lois qui passent, en particulier les lois sur la contraception, les lois sur l'IVG, eh bien, il y a après des décrets d'application et des mises en place de services. Ce qui fait que, même si nous, on était militants avant, on avait des services qui étaient déjà en place, mais c'était que du bénévolat, à partir du moment où il y a des services qui se créent, ça veut dire qu'il y a des salariés, ça veut dire qu'il faut les payer, ce qui est normal. Et donc, en fait, nous, on se rend compte de la fragilité de nos structures parce qu'on est très dépendants. Par exemple, pour nous, moitié de budget avec le Conseil général et participation aussi de l'État sur ce qu'on appelle, par exemple, le titre 1. C'est ce qui nous permet de travailler, de faire de l'information, de la prévention et d'avoir des centres. Eh bien, nos finances, elles ont été diminuées de moitié. Ça veut dire que nous, comme on n'a rien à vendre, eh bien, si on ne nous aide pas financièrement par des subventions, eh bien, on va couler. Et donc là, par exemple, ça fait maintenant la troisième année où on est en déficit. Et ça ne s'arrange pas, puisque d'année en année, on nous baisse nos subventions. Alors, on ne sait pas comment on va s'en sortir, parce que comme on n'a pas forcément de mécènes, on n'a pas forcément d'aide, les conventions qu'on a, elles ne sont pas forcément renouvelées, ou bien on peut avoir des avenants à ces conventions, mais il n'y a pas forcément un taux directeur appliqué favorable, eh bien, on est en grande fragilité.
Quelles actions il faudrait faire pour aider financièrement le planning familial?
Ben forcément, il faudrait qu'on ait des fonds. Alors déjà, je pense que dans le cadre des lois, on devrait honorer déjà et d'une façon légitime que le droit soit exercé, c'est-à-dire qu'on puisse nous allouer les subventions qu'on nous doit. Voilà, en gros, c'est à peu près ça, puisqu'on a des services. On est des vrais centres de santé publique, on rend un vrai service à la population. Donc, je pense qu'il faut reconnaître et regarder nos rapports d'activité et voir ce qu'on fait. Ça, c'est une première chose que, déjà, au niveau des administrations, des institutions, qu'on puisse avoir les subventions qu'on nous doit. Et par ailleurs, on pourrait avoir, dans la mesure où on est une association, il y a des adhésions possibles. On pourrait avoir plus de dons. Des dons, on n'en a pas. On pourrait en avoir. Hein. Alors, appel. Si vous souhaitez faire un don au planning, même si c'est un don de 5 euros, pourquoi pas? C'est très bien. On peut aussi être adhérent. Alors après, il y a par exemple des jeunes qui voudraient travailler au planning. Bon, déjà, ce n'est pas possible de travailler parce que dans le cadre de la loi, il y a des métiers obligatoires au planning. Ces métiers-là, c'est gynécologue, c'est ou conseillère conjugale ou conseiller conjugal, ou psychologue, médecin. Donc ça, c'est les métiers exercés, mais par contre, on peut être bénévole par ailleurs. On peut, par exemple, nous, on fait de la communication, on a une lettre d'info, ces équipes-là, ce sont des équipes de bénévoles, et on a besoin de renfort, donc appel au renfort. Et quand on participe, ça veut dire qu'on est adhérent. Alors l'adhésion, quand on est étudiant, c'est 8 euros. Quand on n'est pas étudiant et qu'on gagne un peu d'argent, c'est 16 euros. Mais on peut donner plus. Donc, avis à la population. Je pense que on ne va pas non plus suffisamment parce que ça ne faisait pas partie de nos politiques d'aller vers du mécénat. On ne sait pas trop où aller chercher les sous. Et pourtant, ce serait nécessaire aujourd'hui.
J'aimerais vous faire réagir sur quelques questions d'actualité. Par exemple, au sujet des pilules de 3e et 4e génération, il y a eu quelques, on va dire, prises de conscience scientifiques et quelques interdictions. Et j'aimerais savoir ce que vous en pensez.
Alors nous, on a eu le revers de la médaille de ces communications-là. C'est-à-dire que déjà d'emblée, nous, au niveau du planning, on proposait et en tout cas on prescrivait des pilules de 2e génération. Pourquoi ? Parce que elles s'adaptent déjà beaucoup plus aux personnes jeunes, parce qu'on a quand même 90% de jeunes qui viennent chez nous. Et ensuite, autre raison très politique là, c'est que les pilules de 2e génération, il y a des génériques et elles sont moins chères. Les pilules de 3e génération, d'emblée, nous on les prescrivait très très pas ou peu, parce qu'elles ne sont pas remboursées, c'est cher. Et nous, on sait qu'on a affaire à des jeunes, avec des jeunes qui ne sont pas riches. Et donc, on se rendait compte, surtout que lorsque une personne à qui on avait prescrit une pilule de 3e génération, eh bien, elle se retrouvait au bout de 3 mois à ne pas renouveler sa plaquette parce que c'était trop cher. Donc, nous, on est contre. Après, il faut savoir que si on a eu une prescription de pilule de 3e génération, il ne faut pas non plus l'arrêter comme ça, parce qu'il faut toujours reconsulter. Nous, on veut bien recevoir les jeunes à qui on a prescrit des pilules de 3e génération. On peut changer cette pilule-là ou pas. Mais ça, nous, de toute façon, on a un questionnaire, c'est-à-dire qu'on s'entretient avec la personne avant de prescrire. Et donc, Voilà, il faut savoir qu'une pilule, c'est un médicament. On ne prescrit pas n'importe quoi, mais surtout, il faut faire attention à la communication et surtout, ne jamais arrêter brutalement une contraception parce qu'on se retrouve... Qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on se retrouve enceinte.
Question un peu plus fantaisiste. Que penseriez-vous d'une pilule contraceptive pour les hommes, cette fois-ci ?
Ben, moi, je suis pour. Bon, après, il ne faut pas qu'ils l'oublient parce que forcément, c'est toujours la femme qui va se retrouver enceinte. Ça ne va jamais être le mec. Mais si on trouve la recette, c'est parfait.
Donc, autre question qui revient souvent dans les médias, c'est l'hypersexualisation des jeunes. On parle souvent que les jeunes découvrent la sexualité plus jeune ou qui est plus montrée avec les réseaux sociaux et Internet. Pensez-vous que les médias exagèrent ou pour vous, est-ce une réalité ?
Bah, déjà, quand on regarde de près les statistiques, on sait que la moyenne d'entrée dans la vie sexuelle, elle n'a pas bougé depuis des générations, c'est-à-dire on est autour de 16 ans. Donc ça, déjà, c'est une première réponse. Après, les modes d'action ont changé. Ça, c'est une vraie réalité. C'est vrai qu'on communique davantage sur Facebook, on communique plus, on se photographie plus. Mais en dehors de la sexualité, ça fait partie de la communication. Et c'est vrai que les rencontres, aujourd'hui, elles se font beaucoup dans les réseaux sociaux. Ça, c'est une vraie réalité. Ça a changé, ça. Ça a changé par rapport aux années 80, où effectivement, les rencontres, elles avaient lieu dans un réseau amical ou lors de soirées, etc. Mais c'était dans un environnement physique, on va dire. Ce n'était pas par Internet ou dans le cadre des réseaux sociaux, par exemple. Hein. Donc ça a beaucoup changé, oui. Mais dans les faits, si on parle de moyenne, hein, d'entrée dans la sexualité, c'est le passage à la sexualité n'a pas changé. Après, je pense que forcément, les gamins ont beaucoup plus accès à la pornographie, ont accès à des images qui peuvent être tout à fait néfastes, hein, parce que justement, ce ne sont pas des images adaptées à leur âge et qu'il y a vraiment une prévention à faire à ce niveau-là, certainement.
Enjeu de santé, c'est déjà fini. Vous pouvez retrouver toutes les infos utiles sur le planning familial ainsi que l'émission en podcast sur www.radiocampusrennes.fr. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et vous souhaite une bonne journée.